Ça va bien ce matin? Oui? Vous n'êtes pas trop sûr. Très heureux d'être là. Merci pour le privilège de pouvoir apporter la parole ce matin. On est bénis d'être là. Mon épouse et moi, Alexia, on a déménagé il y a peu, pas il y a plus, mais il y a peu. Au Saguenay, on est à Arvida, ça fait 2 mois qu'on est là. Et on est heureux de se joindre à l'église il y a plus. Est-ce que vous êtes contents d'être là, vous? Oui, nous aussi. On est vraiment contents d'être là. Et. On était sur la rive sud de Montréal depuis une quinzaine d'années. On est mariés depuis 15 ans. On n'a pas d'enfant pour l'instant, mais on a un chat qui s'appelle Ronron. Je pense que c'est important que vous le sachiez parce que c'est une part importante de la vie de mon épouse sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que vous le sachiez. Mais c'est ça, on était sur la rive sud de Montréal depuis une quinzaine d'années. Puis on a senti sur nos cœurs que c'était la fin d'une saison, qu'il fallait qu'on parte. On ne savait pas où aller. Mais finalement, on est ici, on est au Saguenay. Et quand on a dit aux gens qu'on partait au Saguenay, les gens nous ont dit « Le Saguenay ?» Ça a l'air qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Nous, on connaissait, on était déjà venus. On a une cousine qui habite dans le coin. Et on est là, et ça fait 2-3 mois, et on aime ça. C'est beau, le Saguenay. Il y a des bonnes personnes, il y a des belles personnes, il y a une belle église. Il y a plus qu'on pense au Saguenay. Amen. Amen. Et ce qui est bien, c'est qu'au Saguenay, il y a aussi Jésus. Et on est très heureux d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire un petit résumé vite, parce que mon but, c'est de prêcher ce matin, ce n'est pas de parler de moi. On est là pour parler de Jésus. Mais j'étais, oui, pasteur à l'église Nouvelle Vie pendant, je pense 13 ans. J'étais pasteur responsable des enfants, des adolescents, de la jeunesse. J'étais à la direction de l'église aussi pendant 5-6 ans avec pasteur Claude Houd. Et c'est ça, et maintenant je suis là, mais on a senti sur nos cœurs que c'était le temps de partir pour autre chose, pour faire différent. Et ça a pris du courage pour le faire, mais je parlais tout à l'heure avec Lindia aussi, qui elle aussi a quitté. Tu veux que je parle plus fort, Lindia? Que je l'éloigne? Mais il revient tout le temps. Comme ça? Comme ça c'est mieux? Parfait, good, excellent. Donc très heureux d'être là, de faire partie de cette église-là. On a rencontré Stéphanie et Hugues qui sont charmants à souhait. C'est toujours comme ça au début. Puis après, on découvre... Non, c'est pas vrai. Mais très heureux d'être là, de pouvoir participer. On vient vraiment pour être là, pour servir. Puis on est heureux de se joindre à vous, vraiment. Et en plus, il y a du café ici, donc on est bénis. On est vraiment bénis. Good. On est prêt à... Écoutez la parole de Dieu ce matin? Oui? Mais je suis content d'être là pour parler de ça, de la série des actes. Et je ne sais pas si vous étiez là il y a 2 semaines, c'était Stéphanie qui prêchait ou pasteur Stéphanie? Stéphanie, pasteur Stéphanie? Stéphanie? Parfait. Stéphanie qui prêchait sur acte 2. En tout cas, c'était vraiment bon, Stéphanie. C'était vraiment, vraiment bon. Et c'était acte de mission, il me semble. Parfait, c'est acte de mission. On pourrait dire que c'est un peu la suite de acte de mission, parce que ce matin, c'est acte de courage. Mais ça prend du courage pour accomplir la mission que Dieu nous donne. Et dans acte, ce qui arrive, c'est qu'on réalise que Dieu pourrait tout faire tout seul. Dieu pourrait tout faire tout seul. Techniquement, il n'a pas besoin de nous, vous êtes d'accord avec moi? Il claque des doigts et ça y est. Tu sais, c'est Thanos, mais en mieux. Il claque, puis bang, ça arrive. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a décidé d'agir avec nous. Dieu a décidé de faire son œuvre au travers d'hommes et de femmes comme toi et moi. Je sais que c'est fou. Moi, si je pouvais donner un conseil à Dieu, je lui dirais « Arrête tes bêtises, fais-le tout seul. » Mais Dieu a décidé d'agir comme ça et de faire son œuvre au travers de nous. Et surtout, il veut faire équipe avec nous. C'est son désir et c'est son plan. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Souvent, Stéphanie a dit qu'on appelle ça les actes des apôtres, mais on pourrait appeler ça les actes du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est les deux. C'est les actes du Saint-Esprit au travers des actes des apôtres. C'est les deux réunis. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire équipe avec nous. Dieu veut faire équipe avec toi. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et tout commence le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit est déversé sur les disciples pour les équiper. Dans Actes, chapitre 2, versets 2 à 4, il est dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et à ce moment-là, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Je pense que les disciples eux-mêmes, ils ne sont pas trop sûrs. Et les gens qui sont autour ne comprennent pas ce qui se passe. Et même nous, quand on lit ça, quand on a l'habitude d'être chrétien, on lit ça puis on trouve ça normal. Sauf que la réalité, s'il y avait des langues de feu qui se posaient sur chacun de vous, on serait tous « Qu'est-ce qui se passe ?» Je pense. Et les gens ne comprennent pas. Et à ce moment-là, Pierre, l'apôtre Pierre, qui avait manqué de courage 3 semaines plus tôt, enfin même plus, quelques semaines plus tôt, et qui avait renié Jésus par 3 fois, là, un nouveau courage. Et il élève la voix et il prend la parole devant tout le monde et il explique que c'est l'accomplissement de la prophétie. Le peuple entier de Dieu est appelé à être des prophètes. Amen. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? On rigole parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Oui, merci Dan. Dan, le prophète, c'est bien connu. Pourquoi? Acte 2, verset 14-18. « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Les gens pensent qu'ils sont ivres parce qu'ils parlent en notre langue et on ne les comprend pas. Ils disent « Ouais, ils pensaient que c'était ça, mais pas du tout. Et il leur explique. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens ne sont pas ivres. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu ici? Donc vous êtes appelés à prophétiser. Ah, vous ne le saviez pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as accepté Jésus, tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Et là, vous dites, tu t'en vas dans quoi? C'est ta première ici, puis tu t'en vas dans quoi? Oui, on a appelé à prophétiser. Et je ne parle pas du don de prophétie de 1 Corinthiens 14, je ne parle pas non plus du ministère prophétique de Éphésiens 4, mais chaque croyant est appelé à être prophète. Le Saint-Esprit fait une œuvre en nous, mais il veut la faire au travers de nous. Dieu est là pour nous bénir, puis on parle souvent de la bénédiction de Dieu. Mais le but de la bénédiction, ce n'est pas de la garder, c'est de la redonner. C'est de la retransmettre aux autres. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec le Saint-Esprit en nous. Maintenant, un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui entend de la part de Dieu et qui parle de la part de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui entend de la part de Dieu et qui parle de la part de Dieu. C'est ça, un prophète. Ni plus, ni moins. Alors, il y en a qui ont un ministère prophétique et d'autres non. Mais je crois qu'on est tous appelés à être prophètes dans cette dimension-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, ça prend du courage. C'est facile. C'est facile d'entendre la voix de Dieu. Je vous avoue que je n'entends pas la voix de Dieu comme sur téléphone. Oui, Seigneur, oui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Oui. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais la partie la plus facile est d'entendre la voix de Dieu. Le plus difficile, c'est de la retransmettre. Est-ce que, Seigneur, tu m'as vraiment dit ça? Est-ce que je dois vraiment aller voir cette personne pour... Est-ce que vous me suivez? Saint-Esprit fait une œuvre en nous, mais il veut la faire aussi à travers nous. Et la Pentecôte, c'est la puissance qu'il donne à son peuple pour accomplir la mission. Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Saguenay et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dan vérifie, parce que je ne pense pas qu'il y a Saguenay vraiment dans la... Dieu veut nous donner sa puissance pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Parce que la vérité, c'est que cette mission-là, on ne peut pas l'accomplir seul. On ne peut pas l'accomplir par nos propres forces. Et si on laisse les peurs venir, on ne l'accomplira pas. Pour accomplir cette mission, ça prend du courage. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son esprit. Et c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Dans Actes, ce qui arrive, si vous étudiez le livre des Actes, d'ailleurs, je vous conseille de le lire pendant qu'on est dans cette série sur les Actes, lisez le livre des Actes. Moi, j'aime, c'est un de mes livres préférés parce qu'il y a plein d'histoires dedans. C'est très concret, il se passe des choses extraordinaires. Mais dans Actes, vous remarquerez toujours qu'à chaque fois qu'on parle de l'esprit, il y a quelqu'un qui parle. Parfois, il y a quelqu'un qui parle en langue. Parfois, il y a quelqu'un qui prophétise. Parfois, il y a quelqu'un qui prêche. Mais à chaque fois qu'on parle de l'esprit, il y a toujours quelqu'un qui parle. Et Dieu veut utiliser ta bouche pour faire la différence autour de toi. Je sens que ça descend tranquillement, c'est peut-être. Le prophétique, en fait, c'est pour chacun d'entre nous. Un prophète, c'est un enfant de Dieu rempli de l'esprit de Dieu, qui a entendu Dieu parler et qui parle de sa part. Et ce n'est pas pour un petit nombre, ce n'est pas pour une élite spirituelle, ce n'est pas pour Stéphanie seulement. C'est pour chacun d'entre nous. Si tu dis, oh, moi, ça ne me concerne pas, je suis bien avec mon café ici. Non, c'est pour toi. Et si tu veux le faire avec un café, ben, gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et à faire, c'est que personne ne le fera à ta place. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre ta voix prophétiser sur leur vie pour parler de Dieu. Les gens ont besoin d'amour, d'espoir et de foi. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le cas. Les gens ont besoin d'amour, d'espoir et de foi. Et Dieu nous envoie. Et Dieu nous envoie pour parler. Si ce n'est pas vous, qui ? Si ce n'est pas nous, qui ? Et parfois on dit, ah, mais les gens ne veulent rien savoir de Dieu, ils sont trop loin. Et souvent nous, on a nos choses en tête de, ah, mais pas lui, pas lui. Lui ça m'étonnerait. Elle, je peux te dire que... Oui. On se fait des préjugés dans nos têtes de qui veut entendre la parole de Dieu ou pas. Et souvent, je suis surpris de à qui Dieu parle et à quel point les gens sont touchés. Et nous, on fait juste regarder, on regarde comment ils sont, puis on dit, pas sûr. Il semble que dans nos têtes, on se dit, ah, cette personne, il lui manque juste Jésus. C'est comme si elle est déjà chrétienne, il lui manque juste Jésus. Est-ce que vous avez déjà dit ça ? Moi, oui, je vous avoue, très honnêtement. Mais ce n'est pas à nous à choisir, ce n'est pas à nous à décider. Les gens ont faim et soif plus que vous croyez. Ils ont besoin de vous entendre prophétiser dans leur vie. Et quand on rentre dans cet appel, ce qui arrive, la conséquence, le résultat de tout ça, quand on décide d'aller écouter la voix de Dieu dans le lieu secret pour que Dieu nous utilise pour parler à d'autres, il se passe des choses extraordinaires et il se passe des miracles. Il y a des gens qui viennent à Jésus qui n'avaient pas le profil, en tout cas selon nous. Et on voit dans Actes tout au long. Dans Actes 8, il y a Simon le magicien, un sataniste qui donne sa vie à Dieu. Dans Actes 10, il y a un soldat romain qui donne sa vie à Christ. Dans Actes 9, il y a Saul de Tarse, un terroriste extrémiste qui tue les chrétiens, qui donne sa vie à Christ. Que se serait-il passé si les chrétiens n'avaient pas décidé de leur parler ? Et Saul de Tarse, qui va devenir plus tard Paul, donne sa vie à Christ grâce à un homme qui a le courage de passer à l'action et d'aller le voir et qui va décider de prophétiser dans sa vie parce qu'il aura entendu parler de la part de Dieu et il aura parlé de sa part à lui. Cet homme s'appelle, vous le connaissez tous, Ananias. Prenez ses pensées. Non, on ne connaît pas tant que ça. À main levée, qui ne le connaissait pas ? Vous le connaissez tout ? Non, mais c'est pas un... Pourquoi on ne le connaît pas ? Parce qu'on n'en parle pas tant que ça. On ne le voit pas tant que ça, en réalité, dans la Bible. Il n'y a que deux endroits dans lesquels on parle de lui. Le titre de mon message ce matin, c'est « Acte de courage, veux-tu être utilisé par Dieu ?» Veux-tu être utilisé par Dieu ? Je pose la question parce que c'est comme si on veut être utilisé par Dieu, mais on veut rester tranquille sur notre sofa avec notre café et regarder Netflix. Mais à un moment donné, quand on veut être utilisé par Dieu pour accomplir sa mission, ça va nous prendre du courage et de passer à l'action. La première affaire ce matin, c'est le courage de passer à l'action. Ça va prendre du courage de passer à l'action. Je ne sais pas si ça vous prend du temps des fois, vous avez quelque chose en tête et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour passer à l'action. Vous avez en tête un projet, quelque chose, ou vous avez en tête de parler à quelqu'un, ou vous avez reçu quelque chose pour quelqu'un, puis, ah, il me semble, Dan, je voulais te dire que, alors, je ne sais pas comment te dire, mais en fait, Dieu m'a dit, que, enfin, j'ai senti que Dieu me disait que peut-être, mais Dieu t'aime, voilà. Vous savez, des fois, on reçoit des choses simples de la part de Dieu, puis on se dit, mais non, c'est trop simple, pourquoi je vais aller lui dire ça, ça ne sert à rien. Et ça prend du courage. Et des fois, le temps passe tellement qu'on se dit, bon, on laisse faire. On ne le dira pas, on ne le fera pas. Le courage de passer à l'action. Parce que la vie chrétienne n'est pas juste une vie de contemplation de « Alléluia, ah oui Seigneur, on est bien dans ta présence. » Non, le but de ça, c'est de venir dans la présence de Dieu, de le louer, de l'adorer, c'est ce qu'on appelle un culte à Dieu. Mais le but, c'est de recevoir son esprit pour ensuite transmettre aux autres. Le but, encore une fois, ce n'est pas de garder, c'est de propager et de redonner. Et la vie chrétienne, c'est une vie de contemplation, certes, mais c'est une vie d'action. C'est les deux. Ce n'est pas séparé. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Une vie chrétienne où on vient juste à l'église pour louer et adorer Dieu, si tu pensais que c'était ça la vie chrétienne, tu t'es trompé. La vie chrétienne, Dieu va te demander de passer à l'action parce que Dieu te donne une mission. La vie chrétienne, c'est excitant. Ceux qui me disent que la vie chrétienne, c'est plate et c'est ennuyeux, c'est parce que je pense qu'on n'a pas lu le même livre. Ou en tout cas qu'on ne connaît pas le même Dieu. Parce que je t'assure que quand tu décides de suivre Dieu, de suivre Jésus et d'accomplir ce que Dieu te demande, oh, ça sera tout sauf boring. Ça sera tout sauf ennuyeux. La vie avec Dieu, pour moi, la vie avec l'Esprit de Dieu est excitante. Et je t'excite d'être ici pour prêcher avec vous ce matin. Je trouve ça excitant de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Maintenant, est-ce qu'on lui laisse la place ? On est bien dans les quatre murs de l'église. On est bien ici. Il fait chaud, on a un beau stage, des belles lumières, une belle louange. Mais ça, c'est juste une part de ce qu'est l'Église. c'est juste une part de la vie chrétienne. Parce que le reste de la semaine, Dieu nous appelle à accomplir sa mission. Amen. Vous êtes toujours là ce matin? Toujours avec moi? Parfait. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça prend du courage. Ça prend du courage pour accomplir cette mission. Ça prend du courage pour aller voir des gens et leur parler de Jésus. Ça prend du courage des gens qu'on connaît depuis des années au travail et qu'on leur a jamais parlé de Dieu. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Oh, ben on a fait des choses en famille. Voilà, on est allé. T'es allé à l'église? Bon, tu es allé où? Non, on est allé au Mont-Valin. C'était super beau avec les couleurs. C'était magnifique. Est-ce que vous me suivez? Ça prend du courage. Il y en a, ils vont dire, ah non, moi c'est naturel. Puis il y en a qui l'ont naturel. Tu as l'impression que partout où ils vont, moi je connais des gens qui soient dans le bus, quelque part, peu importe, à chaque fois ils parlent de Jésus. Moi, ces gens-là m'impressionnent. Je suis comme, bravo. Je suis comme. Mais ça prend du courage de témoigner, ça prend du courage de faire la différence là où on est. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne son esprit. Et il nous donne un esprit particulier. 2 Timothée 1,7 nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage, d'amour et de sagesse. Et il y en a qui peuvent se cacher derrière le « Oh, mais moi, tu sais, je suis introverti, Dieu le sait. » Oh ouais, il sait. C'est pour ça qu'il te donne son esprit. Un esprit de courage. « Ah, mais Dieu sait, Dieu connaît. » Non, justement, il sait, il te dit « Fais-moi confiance. Prends mon esprit. Je vais te donner le courage que tu as besoin pour accomplir la mission que je te donne. » Il n'y a pas d'excuse avec Dieu. On ne peut pas s'en sortir. Et c'est ce qu'a compris Ananias, son disciple de Jésus, dans le livre des Actes. Alors que Saul de Tarse avait pour mission de persécuter les chrétiens, littéralement, il va à Damas pour les arrêter. Et en chemin, le Seigneur apparaît à l'apôtre Paul. Et une lumière éblouissante, hallucinante arrive, tellement qu'il tombe de son cheval. Je ne sais pas si c'est pété une côte ou pas, mais il tombe de son cheval. Et souvent, on connaît cette part de l'histoire-là. Moi, je vais vous parler de la suite, qui est, je trouve, encore plus intéressante. Et à ce moment-là, Jésus apparaît dans une lumière éblouissante. Je ne suis pas sûr qu'il arrive à le voir vraiment. Mais il tombe à terre, puis Jésus lui dit dans Acte 9, « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Et là, on va lire une grosse portion de la parole de Dieu ce matin. Si vous n'avez pas lu votre Bible cette semaine, vous allez voir, vous allez être comblés. Acte 9, versets 8 à 22. « Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias, oui Seigneur, répondit-il. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va. » Passe à l'action. Il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment intriguant, vous regarderez dans la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu utilise un homme ou une femme, il n'y a pas de peut-être... Non, c'est toujours à l'injonction. « Lève-toi et va. Fais par combat. » C'est toujours comme ça que Dieu agit. Il dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas, demande à voir un homme nommé Saul, originaire de Tarse, qui aimerait être guidé par Dieu comme ça tous les jours. » Ça serait incroyable. Fais-ci, pars à droite. Ça serait incroyable. Et donc, il y va. Et donc, il obéit. Et ce qui arrive, c'est qu'il lui dit « Vas-y et demande à voir un homme nommé Saul. » Car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ah, là, ça l'intéresse. Ah, il va souffrir ? Verset 17. « Ananias partit donc. » Et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Dieu nous envoie auprès des gens qui sont autour de nous. Dieu nous envoie auprès de nos familles, auprès de notre voisinage, dans notre travail, peu importe. Dieu nous envoie. M'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. » De suite. Pourquoi ? Parce qu'un homme a eu le courage d'aller lui parler. Saul de Tarse, à ce moment-là, il faut bien comprendre, c'est un homme brillant. Il est aussi brillant qu'il est violent. Pourquoi ? Parce qu'il persécute les chrétiens, il les arrête, il les tue, il les torture, tout ce que vous voulez. Et on se dit, quel est celui que Dieu va utiliser pour aller voir cet homme ? Ah, oh, c'est sûr. Alors, moi, je pense que ça va être l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, let's go, il y va. Pour toutes les bons trucs, il est là, il est dans le coup, il veut être au premier rang, il n'y a pas de souci. Oh, sûrement qu'il va envoyer l'apôtre Jacques. Tu sais, il parle bien, il est assuré. Oh, sûrement Stéphanie. Stéphanie, elle est incroyable, elle parle bien, elle va bien lui parler. Non. Dieu n'envoie aucun des apôtres, aucune des grandes figures qu'on pourrait dire, « Ah, oh, ça, c'est sûr, c'est lui qui va envoyer. » Qui c'est qui l'envoie ? Ananias ! Ananias ! Il envoie Ananias. Et souvent, on pourrait penser que Dieu va envoyer des personnes en vue, mais c'est faux, c'est une erreur, parce que pour accomplir ses plans d'amour, Dieu se plaît à utiliser des personnes méconnues. Dieu n'est pas impressionné par le stage. Dieu n'est pas impressionné par les prédicateurs. Dieu n'est pas impressionné... Non. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est nos cœurs. Et Dieu a vu le cœur d'Ananias, il dit, c'est toi que je vais utiliser. Et voici ce qui se passe. Il choisit, moi j'aime ce verset de 1 Corinthiens 27, t'inquiète pas, il n'est pas à l'écran. Il choisit volontiers les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Si tu te penses fou, bienvenue au club. Dieu va t'utiliser. La Bible nous dit qu'il y avait un disciple, pas un apôtre, pas un pasteur, pas quelqu'un de connu, pas un responsable, non, non. Un disciple, un homme lambda qui a accepté Jésus dans sa vie. Et c'est tout. D'ailleurs, Paul parlera d'Ananias plus tard. Dans Actes 22, 11, voici ce qu'il est dit. Et ça, c'est Paul qui parle. « Mais je n'y voyais plus. L'éclat de cette lumière m'avait aveuglé. Alors mes compagnons m'ont pris par la main pour me conduire. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. Il y avait là un certain Ananias. » Quand on dit « un certain », c'était qui ce matin qui prêchait ? Je sais pas, il y avait un certain Stephen, whatever. Est-ce que vous me suivez ? Un certain Ananias. Pas un apôtre, pas l'apôtre, non, un certain Ananias. Et il est juste là, et lui, il se rappelle, même l'apôtre Paul, connaît même pas son, il peut même pas le replacer. C'est un certain Ananias. Un homme pieux qui observait fidèlement la loi, il était estimé de tous les juifs de la ville. Ananias, à ce moment-là, c'est pas quelqu'un d'important. Je sais, on est tous importants devant Dieu, on est tous... il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas quelqu'un d'important, ce n'est pas quelqu'un qui a en vue, c'est juste un disciple et il est fidèle dans la prière, dans sa générosité et il est à l'écoute de Dieu. C'est tout ce qu'on sait sur Ananias. J'aime ce que dit Daniel Marguerat, c'est un professeur de théologie protestante. Il dit « La mémoire chrétienne de la conversion de Paul n'a manifestement retenu que la première séquence, quand Paul tomba à terre puis que la lumière, wow, plus éclatante, plus impressionnante. La seconde est alors tombée dans l'indifférence générale à tort, tant cet épisode se révèle riche en signification. » Et c'est ça qu'on parle ce matin. Ce que j'aime avec Ananias, c'est qu'il répond à Dieu. Il n'y a pas plus humain que ça. Dieu lui demande d'aller, et au lieu de dire « Oh oui, Seigneur, j'y... » Non, il fait « Attends, wow, minute. » C'est exactement ça qu'il fait, il répond à Dieu. C'est totalement humain. Alors que Dieu lui apparaît, il lui parle, il lui donne une mission à Satan, à ce qu'il se prosterne, et qu'il dise « Oui, Seigneur, j'irai partout où tu voudras. » Mais il est en confiance. Il réplique Ananias, acte 9, 13. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. » Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne fait aucun reproche à Ananias. Il ne lui reproche pas de répliquer. Il ne lui reproche pas de « je ne suis pas sûr », etc. Non, non. Mais il lui répond simplement « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. » Très souvent, à la parole de Dieu, il fait la même chose avec Moïse. Tu peux donner toutes les excuses que tu veux à Dieu. Dieu va dire super. » Tu peux y aller maintenant. C'est ça qu'il fait. Dieu ne prend pas nos excuses. Dieu ne prend pas nos excuses. Va, il lui répond, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Et c'est intéressant parce que des fois, on peut juger à savoir à qui Dieu veut parler ou pas. Dans nos têtes, on se dit, oh ben lui, Dieu veut parler à cette personne, ou qui Dieu peut et veut utiliser. Alors lui, ça m'étonnerait que Dieu l'utilise parce que, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais moi, je suis un peu comme ça, donc priez pour moi. Je suis dans le jugement, souvent. Et souvent, on fait un tri humain. On se dit, oh, pas lui, pas elle. Sa vie, c'est n'importe quoi. Mais qui es-tu pour choisir la place de Dieu ? Et c'est exactement ce que fait Ananias. Mais Seigneur, est-ce que tu as entendu ? Et j'imagine Dieu, ah non, je n'avais pas vu, excuse-moi, je ne suis pas omniscient, c'est vrai. Je n'avais pas vu tout ce qu'il a fait. Non, Dieu sait très bien, Dieu est au courant, et justement, il t'envoie. Et Dieu dit, c'est un instrument que je me suis choisi. Et Ananias, je pense, peut comprendre. Parce que lui-même qui n'est pas en vue, Dieu le choisit. Jésus lui apparaît et lui dit « Vas-y, toi !» Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que Ananias est le premier à recevoir cette révélation de la destinée de Paul. Personne d'autre n'est au courant. Personne d'autre ne sait ce qui va se passer avec Paul. En fait, c'est un scoop, c'est une information d'initié. En gros, Dieu lui révèle ses plans. Et j'aimerais te dire que Dieu va te révéler des choses dans le lieu secret qu'il ne révélera à personne d'autre. Si tu vas dans le lieu secret, si tu pries, Dieu va te révéler des choses qu'il ne dira à personne d'autre. C'est ce qui se passe avec Ananias. Il va le voir et il lui dit ce que Paul va devenir. Ananias, c'est dur à dire, même si j'aime les ananas. Mais Ananias, à ce moment-là, a le courage d'obéir à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe à l'action. Il passe à l'action. Ça prend du courage pour passer à l'action. Non seulement Ananias a obéi à ce que Dieu lui demandait, mais il a eu le courage de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est sûrement plus dur pour nous. La zone de confort. On est bon dans ça. Deuxième chose ce matin, le courage, Dieu te donne le courage de sortir de ta zone de confort. Est-ce qu'on aime notre zone de confort? Complètement. Quand on est venu ici avec mon épouse, ben nous on était bien sur la rive sud, on avait nos gens qu'on connaissait, on avait nos parcs qu'on connaissait, on avait nos travails respectifs qu'on connaissait, et là, pouf, tu sors de ta zone de confort littéralement. Et on n'aime pas ça, trop sortir de notre zone de confort. Mais le Saint-Esprit va t'amener à sortir de ta zone de confort, parfois. Et ça prend du courage, c'est pas facile. Et c'est ce qui arrive à Ananias, parce qu'il sait bien qui est Paul. Il a entendu parler de lui. Il est reconnu. Si Ananias n'est pas connu, Saul de Tarse est connu. Acte 9, 13. Il dit, de plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais c'est qui Paul? Paul, à ce moment-là, il s'appelle Saul de Tarse et c'est un pharisien d'élite. Les historiens puis les théologiens s'accordent pour dire qu'il avait un double doctorat. Le gars, il connaissait sa parole. Tu ne pouvais pas lui en passer une. Il connaissait la parole de Dieu, les Écritures par cœur. Il était très fort, il avait un double doctorat. Paul était ce qu'on nommerait aujourd'hui un pharisien extrémiste. C'est un terroriste, littéralement. Il a même été témoin du meurtre d'Étienne, un des disciples de Jésus. En gros, le sang, il connaît, et ça ne lui fait pas peur. Il n'a pas de problème avec ça. D'ailleurs, Luc le dit au chapitre 9 clairement, acte 9, verset 1 à 2, au début de acte 9. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples. Pas un mauvais commentaire sur Insta ou Facebook de « Oh, je la trouve pas belle ». Non, non, de mort. Il menace de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter, les amener à Jérusalem. Paul, c'est le gars qui rentre ici et qui nous arrête parce qu'on est en train de louer Jésus ce matin. Qui veut suivre Jésus? Oh, Jésus, fais-moi du bien. À ce moment-là, Ananias, il craint pour sa vie parce qu'en fait, il est potentiellement une future victime de Saul. J'imagine Ananias qui dit à Dieu, « Mais Seigneur, tu m'envoies dans la gueule du loup. Je suis chrétien et tu me demandes d'aller voir le plus fervent extrémiste contre les chrétiens qui veut m'arrêter et me tuer. » Et Dieu lui fait, « Oui, c'est ça. » « Mais t'es sûr ?»« Oui, vas-y. » Et ça prend du courage, vous êtes d'accord, ça prend du courage pour faire ça. Moi, le premier, j'aurais dit, « Non, merci, tu peux le donner à Stéphanie, c'était un plaisir, Seigneur, on se repart. » Je ne suis pas sûr que j'aurais dit oui. Vous savez, des fois, on lit la parole de Dieu, puis on est habitué à lire les choses, mais quand on se met dans le contexte, on fait, « Waouh, il l'envoie vers son potentiel meurtrier. » Vers son potentiel meurtrier. Alors nous, peut-être qu'on n'aura pas des personnes comme ça qui veulent nous tuer spécialement, et peut-être des personnes qui vont nous insulter, peut-être des gens qui vont rire de nous, c'est possible. Mais Dieu nous donne son esprit de courage pour aller dans ces situations-là. D'ailleurs, la renommée de Paul était telle que même après sa conversion, une fois qu'il a donné sa vie à Jésus et qu'il proclame Jésus, acte 9, 26 nous dit, « À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. » Paul, lui, là, je ne suis pas sûr. Lui, là, avec le qui a ce passé-là, puis qui a fait ça, puis eux-mêmes avaient peur. Mais ça prend du courage parfois pour obéir à Dieu, parce que Dieu va nous sortir de notre zone de confort. Dieu nous demande ça parce que Il a des choses prévues pour nous. Puis j'aime cette phrase, cette citation de Paulo Coelho qui dit « Le bateau était en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. » Peut-être que vous connaissez cette phrase-là. Mais je l'aime, c'est un bon rappel pour nous. On est bien à l'église, on est bien aux quatre murs, on est bien avec notre bon café. Merci d'ailleurs pour le café. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à plus que ça. Et puis ça se peut que Dieu va nous sortir de nos zones de confort. C'est possible. Et parfois, on pourrait se dire, ah, mais non, moi je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Sortir de ma zone de confort pour arriver à l'heure à l'église, ah, ok, d'accord. Changer de chaise, ah, c'est possible. Servir auprès des enfants, possible. Est-ce qu'il y en a qui veulent servir auprès des enfants? Moi, je lève ma main. Il y en a qui servent déjà, ils disent, oui, amen, prêche. Être généreux avec mes offrandes, on s'en repart. Mais cette mission, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, tu me connais, je suis introverti, puis en plus, tu sais, j'ai de bonnes relations, je veux pas, tu sais, j'ai une bonne réputation ici, je ne veux pas être trop. Mais Dieu te dit, oui, tu es capable. Dieu te dit, tu es capable. Philippiens 4, 13, je suis capable de tout grâce à celui qui me rend fort. Et souvent, on lit ce verset quand ça va mal, quand on est triste, quand on vit des épreuves, on dit, je suis capable de tout dans le nom de Jésus. Mais c'est super, fais-le, continue. Mais ce verset vaut aussi pour sortir de ta zone de confort. Je suis capable de tout. Tu sais, quand tu dis, oh, je ne suis pas capable, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, de toute façon, chacun son appel. Hein. Oui, c'est ton appel. Tu fais partie de cet appel que Dieu dit, va et fais de toutes les nations des disciples. Sors de ta zone de confort. Ce n'est pas un message confortable ce matin, c'est un plaisir d'être avec vous. Et quand ta mission pour Dieu, il te revêt son Saint-Esprit. Il t'équipe, il te donne ce dont tu as besoin. Il te donne sa puissance, son assurance, il te donne le courage nécessaire. Et Ananias obéit malgré ses peurs. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'avancer malgré ses peurs. Si on n'avait rien fait dans nos vies, si on n'avait pas dépassé nos peurs, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, je pense. Et je pense que chacun pourrait témoigner ici, dans sa vie, des choses qu'il a fait dans sa propre vie, mais aussi pour Dieu. De dépasser mes peurs pour vivre ce que Dieu avait pour moi. Et Ananias obéit. Combien de fois Dieu nous a poussé à faire quelque chose, à dire quelque chose à quelqu'un, et on n'y est pas allé. D'envoyer un texto, d'envoyer un message à quelqu'un. Ah, j'ai à cœur de... Tu sais, puis ce moment où on écrit à la personne, envoyez. Qui a déjà fait ça? Et la personne, oh, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Tu fais, yes, je le savais. Il y a 2 minutes, tu ne le savais pas. Mais Dieu te donne le courage d'appuyer sur envoyer. Ta vie n'est pas en danger, il faut juste appuyer sur envoyer. Juste faire un appel. Juste aller vers quelqu'un. Juste... Et Dieu va te demander des choses comme ça, d'appeler quelqu'un, d'aller voir les gens, c'est possible. Mais pourquoi on ne le fait pas souvent? Parce qu'on a peur. On a peur. On a peur, là, il y a plein de peurs, il y a la peur de se tromper, de se dire « ouais, mais est-ce que Dieu m'a vraiment dit ça ?» En général, si je peux te donner un conseil, si c'est une bonne chose, même si tu es trompé, vas-y, ça va toujours faire du bien. On a peur du ridicule, si je vais voir cette personne, et qu'est-ce qu'elle va penser de moi? La peur du « quand dira-t-on » la peur d'échouer, très souvent la peur d'être rejeté. Quand tu vas parler de Jésus à quelqu'un de « ah, oh, mais... comment elle va réagir, je m'entends bien avec elle, puis je ne veux pas que... » Et on a plein de peurs comme ça, toutes ces peurs qui sont là, mais Dieu nous donne le courage de dépasser ces peurs-là. Alors n'hésite pas, quand Dieu t'envoie, vas-y, go. Et je le prêche en premier pour moi. Quand il te met quelqu'un à cœur, de l'appeler, lui envoyer un texto, lui donner une parole, de lui faire un don, vas-y. J'ai commencé un DEP en ferblanterie à Chicoutimi. Donc je frappe l'atoll. Voilà, je me défoule. Et je trouve ça très, très intéressant, ça me sort de mon habitude, de ma zone de confort. Et il y a un étudiant parmi eux qui, on parlait de ça, puis il parlait que c'était difficile financièrement, il n'y arrivait pas. Puis je chantais que Dieu me mettait à cœur juste de l'aider, de lui faire un don. Mais j'ai combattu avec ça, pour plusieurs raisons. Un, ben, qu'est-ce qu'il va dire? Deux, ben, je pourrais faire autre chose avec cet argent. Oui, je suis cheap un peu. Fait que, pas vous ici, mais... Et au bout d'une semaine, je suis allé, puis je lui ai donné. Puis je lui ai dit, hey, écoute, tiens, c'est pour toi, pour t'aider. Je ne vais pas parler de Jésus spécialement. Je l'ai juste béni. J'ai vu un grand gaillard de 24-25 ans, costaud, pleurer. Parce que j'ai juste obéi à ce que Dieu me demandait. Et Dieu nous envoie dans la moisson avec cette mission. Il nous donne le courage de... Fais-le, appelle, texte, fais un don, fais quelque chose. Mais vas-y, vas-y. Il y a tellement de gens aveugles autour de nous qui ont besoin que des Ananias aient le courage d'obéir à Dieu pour que les écailles tombent de leurs yeux. Et ça, c'est vous. Vous êtes cette Ananias là. Ça prend des gens comme ça. Ma question pour toi ce matin, c'est qui est ton sol autour de toi? Qui est cette personne? Qui est ton sol dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton travail, dans tes études? Qui est cette personne que tu dis? Lui? Non, je ne pense pas, non. Elle? Tout sauf elle. Seigneur, tout sauf elle. Qui est cette personne autour de toi? Et Dieu se dit, vas-y, j'ai besoin que tu ailles. J'ai besoin que tu l'aimes. Elle ne mérite pas d'être aimée, toi non plus. Les gens ont besoin de gens qui vont aller vers eux, qui vont aller les aimer, qui vont aller leur parler. Qui est ton sol? Parce que sans Ananias, il n'y a pas de Paul. Si Ananias n'était pas allé, je pense qu'il n'y aurait pas de Paul. Et s'il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de lettre aux églises. Et s'il n'y a pas de lettre aux églises, il n'y a pas d'église. En fait, Ananias est la personne par qui tout arrive. Bon, comprenez-moi bien, il y a plein de gens qui ont joué leur jeu, puis le Saint-Esprit. Mais si Ananias n'était pas allé, s'il n'avait pas eu le courage d'obéir et sortir de sa zone de confort, peut-être que vous et moi, on ne serait pas réunis ce matin. Quand on y pense, c'est fou. Si Ananias n'avait pas obéi, s'il faut, on ne serait pas là, vous et moi. Tu es l'instrument du prochain miracle de Jésus. Tu veux voir des miracles? Ben, tu vas faire partie du miracle. Tu fais partie du miracle. On fait partie du miracle parce que Dieu nous envoie en mission, parce que Dieu veut faire équipe avec nous. Il nous donne son esprit et son courage pour faire des miracles avec nous. C'est exactement ça. Et quand on veut pleinement notre marche avec Dieu, bien en communion avec le Saint-Esprit, il va nous demander des fois des choses qui nous dérangent, qui nous sortent de notre zone de confort, de notre gêne. Bref, des affaires qui demandent du courage. Est-ce que il y en a, ça vous est déjà arrivé, Dieu vous a demandé quelque chose, de dire « je ne suis pas sûr ». Ouais. Bon, il y a juste deux personnes. C'est dur, c'est difficile. Mais c'est ça qui rend la vie chrétienne vivante et vibrante. Et de dire, malgré mes peurs, malgré mes manquements, Dieu, toi, tu fais le reste. Moi, je vais donner mon best, mais toi, tu fais le reste. Moi, je fais ce qui est possible, et toi, tu fais l'impossible. Mais ça prend du courage. Ça prend du courage. Mais Dieu nous donne ce courage-là. J'aimerais appeler les musiciens à venir tranquillement, si vous voulez bien. Dernière chose ce matin, Dieu nous donne le courage de passer à l'action, Dieu nous donne le courage de sortir de notre zone de confort, et Dieu nous donne le courage pour faire la chose qui est la plus difficile dans ce monde, le courage d'aimer. Dieu nous donne le courage d'aimer. Ça prend du courage pour aimer. Ça prend du courage pour aimer. La bonne nouvelle, c'est que, là encore une fois, le Saint-Esprit est là pour nous, et que nous dit Galates 5:22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. S'il te manque d'amour, s'il te manque de courage, va dans la présence de Dieu et te dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin d'être avec toi pour que ton esprit me remplisse, pour que je puisse avoir du courage et de l'amour pour les gens. L'amour, la joie, la paix. Bénis. Matthieu 5:44. Mais moi, je vous dis, et c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand on réfléchit bien, ce verset, c'était pile pour Ananias. Aimez vos ennemis. Seul est son ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, ça marche. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ben oui, il veut m'arrêter. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ben oui, il veut me mettre à mort. Dieu va nous donner le courage d'aimer les gens autour de nous, même ceux qui ne sont pas aimables. C'est tellement facile d'aimer ceux qui sont aimables. Moi, le premier. Mais Dieu nous donne le courage d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Parce que lui nous a aimés le premier. Ananias 9:17 nous dit « Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Il lui dit « Saul, mon frère. » Saul, mon frère. Il est en train de dire « mon frère » à un gars qui veut le tuer. Pour dire « Saul, mon frère », ça prend de l'amour. Ça prend de l'amour. Il y a des gens à qui on n'a pas envie de tendre la main, pourtant c'est ce qu'ils ont le plus besoin, moi. Ils ont juste besoin de gens qui vont juste tendre la main et dire « Saul, mon frère, Nathalie, ma sœur, mets le nom que tu veux. » Mais c'est ce qui se passe. Saul, mon frère, dans son désarroi, à mon avis, Saul est certainement réconforté par la bonté dont fait preuve Ananias. Lui qui était dur, qui était brutal. Pour lui, c'est sûr que c'était une chose inconnue jusqu'ici. Et la vérité, c'est qu'il y a tellement des gens brisés, détruits autour de nous. Oh, ils ont un sourire, hein, tu verras sur Instagram. Mais à l'intérieur, les gens sont brisés, sont détruits. Combien de fois on voit des gens qui se sont suicidés et tu regardes leur dernière photo Insta, c'est... mais on a besoin d'aller dans le lieu secret et dire, Seigneur, montre-moi les choses, montre-moi le discernement. Seigneur, à qui veux-tu que j'aille parler? À qui veux-tu que j'aille tendre la main? Ça prend des gens qui vont dire, seul mon frère. Ça prend du courage d'aimer, le courage d'être vulnérable, le courage d'être possiblement blessé et meurtri. C'est vrai. Et c'est tellement plus facile de rester caché et de ne rien risquer. Et dire, non, moi j'ai déjà donné, j'ai assez souffert. Puis, oh mais Stéphane, moi, si tu savais, je peux dire j'ai donné, puis j'ai été trop meurtri. Mais c'est ça la vie, et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, dans l'éventualité qu'un jour, possiblement, on veuille le rencontrer. Et si Jésus l'a fait pour nous, Dieu nous appelle à le faire pour les gens autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, peu importe. Puis j'aimerais te dire que si tu souffres de ça, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Si tu as un cœur meurtri, tu sais, le cœur est fermé à double tour. Dieu veut te guérir, Dieu veut donner cet amour dont tu as besoin. Laisse-lui la possibilité de faire une œuvre de restauration en toi pour que tu redeviennes à nouveau un canal d'amour pour les autres, pour les gens autour de toi. Parce que parfois, certains chrétiens ils parlent de Jésus pour se dédouaner et dire « Ah oui, je voulais juste te dire que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, puis si tu donnes ta vie, voilà, tu pourras aller au ciel, et puis voilà, ouh, c'est bon, c'est fait. » Non, témoigne avec bonté, témoigne avec amour, c'est ça que les gens ont besoin. Ils n'ont pas juste besoin de la vérité, ils ont besoin de l'amour qui enrobe cette vérité-là. Et l'amour qui enrobe cette vérité-là, c'est toi. C'est toi. Et Dieu t'envoie. Dieu t'envoie. Notre appel à nous, comment on fait ça de parler de Jésus avec amour, c'est dans la présence de Dieu tout simplement. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est compliqué. Et Dieu veut nous remplir de son amour pour qu'on puisse donner cet amour-là. Alors notre appel à nous, c'est pas... Mon but ce matin, ce n'est pas de vous culpabiliser, de dire « il faut que tu parles de Jésus ». Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mon appel pour nous ce matin, c'est allons dans la présence de Dieu. Allons chercher ce dont on a besoin. Et alors qu'on va le faire, l'esprit d'amour va grandir en nous, l'esprit de courage va grandir en nous. Allons entendre les choses de Dieu, faisons de Jésus notre trésor. Laissons l'amour de Dieu grandir en nous. Développons notre communion avec le Saint-Esprit. Et de soyons remplis du Saint-Esprit. Et quand ça arrivera, tu vas être rempli de son amour. Et l'amour, c'est toujours quoi dire. L'amour, c'est quand se taire aussi. L'amour, c'est quel ton utiliser. Et il te remplit d'amour, de joie et de patience. Et quand tu es rempli de l'Esprit, tu parles sans colère. Tu parles sans amertume, tu parles sans blessure. L'amour parfait bannit la crainte. Et vu que l'amour parfait bannit la crainte, tu n'as pas peur d'être rejeté. Parce que ton identité ne dépend pas de la réponse de la personne, mais de qui tu es en Jésus. Et c'est exactement ce qu'a fait Ananias, un des plus grands terroristes de l'époque. Un homme dur et violent avait besoin d'amour et d'affection. Souvent, ne te fie pas à ce que tu vois. Les gens les plus durs, les gens les plus maganés par la vie, sont les gens qui ont le plus besoin d'amour. Je vous dis que quand j'ai donné cet argent à ce gars-là, tu sais, qui paraissait fort, il dit, mais en tout cas, c'est... oh, waouh. Mais les gens ont besoin d'amour. C'est dur de résister à l'amour. Tu peux faire le teuf, tu peux faire... Non, c'est dur de résister à l'amour. C'est dur de résister à l'amour. Aimons les gens autour de nous, ayons le courage de les aimer, même s'ils ne méritent pas, même si on n'a pas envie. Mais pour ça, on va avoir besoin d'aller à la présence de Dieu et dire, Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton Saint-Esprit, parce que sans toi, je ne pourrais pas le faire. Donne-moi le courage dont j'ai besoin. Ce qui est intéressant, c'est que dans Actes 22, l'apôtre Paul dit, il parle d'Ananias, il dit, il est venu me trouver, s'est tenu près de moi. C'est dur d'aimer de loin, on ne peut pas aimer de loin. En général, on aime de proche. Il s'est tenu près de moi, alors que c'est un terroriste. Il s'est tenu près de moi, ça veut dire qu'il a senti sa présence, parce que, rappelez-vous, il ne voyait pas. Il s'est tenu près de moi, il m'a dit, « Seul mon frère recouvre la vue. À l'instant même, je vis de nouveau et je l'ai vu. » Et cette parole l'avait tellement touché à l'apôtre Paul, l'avait tellement marqué, l'avait tellement percuté, impacté, que des années plus tard, Paul se rappelle de ces mots-là. Paul se rappelle de ces mots-là. « Seul mon frère. » Et il dit, « À l'instant même, je vis de nouveau et je l'ai vu. » Et j'aimerais te dire que 99% du temps, la première fois que les gens verront Jésus, c'est quand ils te verront toi. À l'instant même, je vis de nouveau et je l'ai vu. Ce qui est bizarre, c'est que Paul verra Jésus quelques jours plus tard. On se dit, mais Seigneur, il lui apparaît littéralement. Acte 22, 17, il dit « Un jour après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur. » Et l'ange dit « Mais Seigneur, pourquoi Jésus, tu t'es pas montré à lui avant? Ça aurait été bien plus simple, on aurait réglé la question. » Vrai ou pas? Pourquoi tu t'es pas apparu avant? Parce qu'avant de voir Jésus, il fallait qu'il voie Ananias. Il fallait que quelqu'un l'invite dans la famille et lui tende la main. Et avant de voir Jésus, les gens ont besoin de voir Dan, les gens ont besoin de voir Claudia, les gens ont besoin de voir Stéphanie, les gens ont besoin de voir Stéphane. Et Dieu nous envoie avec courage. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin en terminant, puis juste se placer devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi ton Saint-Esprit, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton courage pour aimer les gens autour de moi. Parce que tu es un ambassadeur de Christ, tu le représentes, tu es son image. Un ambassadeur, un prophète qui entend de la part de Dieu et qu'il parle de la part de Dieu à ta famille, à tes voisins, à tes collègues, à des inconnus parfois. Ça prend du courage pour aller les voir, pour aller leur parler, pour aller les aider. Ça prend du courage. Mais c'est le seul moyen choisi par Dieu lui-même pour que Jésus transforme des vies, pour que Jésus transforme nos familles, pour que Jésus transforme Saguenay et que les gens de Saguenay connaissent Jésus. C'est toi que Dieu envoie. Alors, tendons-leur la main, ouvrons-leur nos bras. Et j'aimerais te défier ce matin à faire une chose qui englobe ces trois choses. Passer à l'action, sortir de ta zone de confort et aimer les gens. Le 31 octobre, il y a la Halle des Lumières. Peut-être que ça serait plus simple pour toi de rester chez toi, de boire ton café et dire « Oh, on va rester tranquille. » Et si la première étape était de venir à la Halle des Lumières le 31 octobre? Sors de ton canapé. Habille-toi en banane si tu veux. Ça, c'est sortir de sa zone de confort, je peux vous le dire. Mais c'est ce qu'on fait. On sort de notre zone de confort, on va vers les gens, on leur tend la main, on leur tend un hot dog, on leur tend un café. Puis c'est ça qui fait la différence dans la vie des gens. Alors ça, c'est mon défi pour nous, en tant qu'Église. Soyons là, faisons la différence, répondons à l'appel de Dieu. Et Dieu ce matin nous dit, je cherche des Ananias, des hommes et des femmes qui vont être remplis de mon esprit, qui vont être à l'écoute de ma voix, qui vont avoir le courage d'obéir pour aller vers ceux qui ont besoin de moi, le courage de passer à l'action, le courage de sortir de sa zone de confort, le courage d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Alors ce matin, est-ce qu'on pourrait s'offrir à Dieu tout simplement et dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus courageux, la plus courageuse. L'amour déborde pas spécialement, mais Seigneur, je veux me placer devant toi et dire, je veux m'approcher de toi, puis je veux laisser mes peurs derrière moi. Remplis-moi ton amour, remplis-moi ton courage, parce que je sais que c'est la mission à laquelle tu nous appelles. Je sais que tu n'es pas juste mort sur la croix pour me sauver, mais je sais que j'ai été sauvé pour servir. Et peut-être que tu n'es pas connu, peut-être que tu dis « Oh, pas moi, pas... » Ananias n'était pas connu, c'était juste un simple disciple qui avait donné sa vie à Jésus. Et Dieu nous appelle chacun d'entre nous à faire la différence, à passer à l'action, à sortir de notre zone de confort, pour que d'autres connaissent l'amour de Jésus. Alors ce matin, si on pouvait fixer nos yeux sur Jésus, juste prendre un temps, quelques instants, juste prier, puis ensuite on va chanter ce chant pour s'approcher de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, on a besoin de toi. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton courage, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, de la même manière qu'il y a eu la Pentecôte. Seigneur, je prie pour une Pentecôte nouvelle pour nous ici, à Elia Plus, à Saguenay. Remplis-nous à nouveau, Seigneur. Remplis-nous à nouveau de toi. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton courage. On a besoin de toi, Seigneur. On réclame ta présence dans nos vies, on réclame ton esprit, on réclame ton amour, ton courage pour cette ville, pour nos familles, pour notre voisinage. Seigneur, on veut voir cette salle remplie. Parce que tu nous envoies en mission. Oh Seigneur, on veut juste s'approcher de toi ce matin et dire, prends toute la place, Seigneur. Si tu me demandes d'aller, j'irai. Tu dis, qui enverrai-je? Et Seigneur, nous répondons, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia, est-ce qu'on peut chanter ce matin, juste dédier nos cœurs à Dieu ce matin, nos vies. Alléluia, Jésus.